Le journal, Claude Boussin.
Trafic d'armes dans les Grands Lacs. Amnesty International accuse certaines entreprises occidentales de continuer à vendre des armes qui aident les milices et autres groupes armés à continuer à violer les droits de l'homme à l'est du Congo. La MONUC condamne les derniers événements survenus en Mbandaka. Elle invite le gouvernement à respecter les conclusions de sa dernière évaluation qui préconise le respect de la régularité dans les paiements de la solde des hommes en uniforme. Des enfants employés dans les mines à Lubumbashi, ils travaillent dans des conditions sanitaires dangereuses. Les responsables de l'entreprise, eux, affirment vouloir aider ces élèves à préparer la prochaine rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Malgré l'embargo décrété par l'ONU, des entreprises américaines, anglaises, israéliennes continuent à vendre des armes aux milices et autres groupes armés responsables des massives violations des droits de l'homme à l'est de la RDC. Dans un rapport publié hier, mardi à Londres, Amnesty International appelle la communauté internationale à mettre en place un traité sur le transfert des armes dans la région des Grands Lacs. Le point, Jacques Matande.
Amnesty International affirme dans son rapport intitulé « République démocratique du Congo, armée l'Est » que des stocks d'armes et des munitions sont transportés depuis de nombreux pays, notamment des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Israël, la Russie et d'autres pays de l'Europe de l'Est vers la région des Grands Lacs. Dans ce rapport, Amnesty met en cause des vendeurs d'armes, intermédiaires et entreprises de transport engagées dans ces trafics qui déstabilisent le processus de pacification dans la région des Grands Lacs. Selon cette organisation internationale, les armes et munitions sont livrées au gouvernement de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, pour être distribuée ensuite à des groupes armés et milices dans l'est de la RDC, impliqués dans des atrocités et violations flagrantes des droits de l'homme. Amnesty International estime que si la communauté internationale, les Nations Unies et les pays de la région des Grands Lacs ne mettent pas fin à la prolifération d'armes, le processus de paix dans cette région risque de s'effondrer avec des conséquences désastreuses sur les populations. Amnesty International lance en effet un appel à la communauté internationale pour la mise en place d'un traité international sur le commerce des armes afin de contrôler avec rigueur le transfert de toutes les armes classiques et d'empêcher qu'elles ne servent à perpétrer des graves atteintes aux droits humains.
Affrontement entre des Hutus rwandais et une coalition des ex-Mai Mai et une milice locale dénommée Raia Mutomboki. Ces affrontements, qui ont eu lieu à Katende dans le sud Kivu, a provoqué le déplacement de plusieurs habitants de Katende vers Ouamaza dans la province du Maniema. Le témoignage des habitants dans ce reportage de Gabriel Wamenya.
Ceci s'est passé le week-end dernier dans la région de Katende et Kalusungu, dans le site Kivu. Explication d'un déplacé rencontré à Ouamaza. Les interams sont arrivés et ils ont commencé à tabasser les gens. Ils ont tué sur place 5 personnes et nous avons laissé leur corps à plein jour. C'est ainsi que nous avons fui à Ouamaza. Cette situation a provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes dans la collectivité des Bébé Ouamaza dans le Maniema, comme nous l'explique M. Masoudi Kawaya Mukanilwa, chef de collectivité.
Suite à cet affrontement, il y a un afflux de gens, la population quitte le sud qui ouvre le Maniema. Et c'est déjà une façon de semer la panique dans l'esprit de la population. Le Maniema subit des revers très regrettables, notamment il est contraint de recevoir un nombre de populations qui dépasse ses effectifs.
Les autorités de cette entité craignent que les régions ne soient contaminées par ce qui se passe chez leurs voisins directs dans la collectivité de Wakabango 1 en territoire de Shabunda. Kindu, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Une mission des droits de l'homme de la MONUC depuis lundi à Mbandaka, c'est pour recueillir les informations devant clarifier la situation des troubles et pillages opérés par des militaires le week-end dernier. La MONUC, qui condamne ce qui est arrivé, invite le gouvernement au paiement régulier de la solde des militaires, gage d'une armée disciplinée et professionnelle. Monsieur Ross Mountain, l'adjoint du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, le rappelle au micro de Dona Madimba.
La communauté internationale a insisté en plusieurs fois, le SIAT, le MONUC, les autres, que ça, les salaires doivent être payés. Il y a de l'argent qui sort du trésorier chaque mois. Ça doit toucher les gens sur le terrain, les soldats, qui et pas les soldats fantômes, les soldats qui ont besoin et qui le méritent. Malheureusement, on a trop des exemples où il y avait des incidents qui sont produits par l'armée nationale contre des civils, où il y a le pillage, il y a le viol, il y a des attaques, ça ne peut pas continuer. Et il faut prendre les mesures qui s'imposent.
Bientôt, une mission parlementaire va se rendre à Mbandaka. Cette mission, annoncée par le président de l'Assemblée nationale lors de la séance de clôture de la session ordinaire qui vient de s'achever, aura pour mission de se renseigner sur les causes des troubles qui ont conduit au pillage du dimanche dernier. Au cours de la séance de clôture, lundi dernier, M. Olivier Kamitatou a évoqué les deux préoccupations essentielles de la population à l'heure actuelle, à savoir les revendications sociales et le besoin de sécurité. Olivier Kamitatou a été joint par Dona Madimba.
Les deux principales attentes des Congolais, c'est d'abord, un, la sécurité. On doit vivre en sécurité sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et la deuxième attente, c'est bien entendu des questions sociales. On a besoin de salaire, on a besoin de frais de scolarité, on a besoin de transport, on a besoin d'un espoir à ce niveau-là. Le peuple vit dans une misère absolue et les réponses ne peuvent être que graduelles.
Par exemple, sur le plan social, en attendant qu'on soit arrivé au bout du processus en cours, comment est-ce que l'État peut régler les problèmes qui se posent actuellement?
L'État ne peut répartir que la richesse nationale. Mais bien entendu, il faut que cette répartition soit équitable. Et pour cela, effectivement, il appartient à l'Assemblée nationale d'effectuer plus de contrôle sur l'exécutif, sur les services publics. Et c'est une tâche à laquelle nous nous sommes engagés.
Les derniers événements de Mbandaka, disons-le, posent le problème de la situation sociale des militaires en RDC. Notre confrère Jean-Claude Toumba est descendu sur terrain pour voir comment se passent les choses, comment vivent les militaires congolais dans les camps, du moins ici à Kinshasa. Suivez son reportage.
Ce qui frappe dans un camp, c'est d'abord la promiscuité. En dehors des officiers haut gradés, le reste des troupes vivent dans des petits studios, mais aussi des blocs où ils sont entassés. Des maisons construites pour beaucoup à l'époque coloniale. Leurs murs sont sales et pleins de graffitis. Les toitures en tuiles sont vieilles, certaines trouées, aux fenêtres des morceaux de vieux pagne. Les studios, d'une surface d'environ 3 mètres carrés, conçus pour des militaires célibataires. Aujourd'hui, chaque studio abrite une famille entière avec en moyenne 5 personnes. Situation difficile à vivre selon ce militaire qui a requis l'anonymat.
Dans une chambre, par exemple, où se trouvait une famille de trois, des enfants, quatre enfants, aujourd'hui, vous trouvez quatre familles. Prenons quatre familles, avec une moyenne de quatre enfants, vous avez quatre fois quatre, vous avez ce que ça fait. Un local de 3 mètres carrés, où vous trouvez quatre familles, avec quatre enfants par famille. Il y a toujours des disputes, c'est chamaille, on se bat, il y a des changements, et c'est pratiquement difficile.
À ce tableau s'ajoute la crasse. Et pour cause, les installations sanitaires sont bouchées, les égouts débordent, l'odeur pollue tout l'air des camps. Où se soulagent les militaires, certains ont construit leurs toilettes en paille, mais selon ce même militaire, beaucoup se soulagent en plein air, ce qui expose leur famille aux maladies. Pas de ration non plus, sauf lors de grandes fêtes. Interrogés sur leurs soldes, les officiers dont les grades ne sont pas confirmés touchent 5000 francs congolais. Avec ce traitement, notre interlocuteur affirme que cette situation expose les militaires aux extorsions des civils.
Retour en province, Kasaï Oriental, la fédération de l'UDPS Mbujimayi exige la libération de ses militants. Ils étaient arrêtés depuis le début des événements en rapport avec le 30 juin. C'est pour la première fois que les dirigeants de la fédération de l'UDPS Mbujimayi s'adressent aux autorités provinciales par l'entremise de la presse. Des détails avec Julien Nyamouni.
Au nombre de revendications soulevées par Diedi Kanyinda, président de l'Assemblée fédérale de l'UDPS Mbujimayi, figure en bonne place la levée de la mesure qui frappe le siège du parti d'Étienne Tshisekedi. En effet, le bâtiment du bureau fédéral de l'UDPS est toujours assiégé par les éléments de la police et des FRDC. Autre revendication, c'est celle de la libération sans condition du vice-président fédéral Valentin Toumba, arrêté depuis plusieurs jours, ainsi que celle de tous les militants du parti interpellés entre le 27 juin et le 1er juillet dernier. Dudi Kanyinda demande également aux autorités politico-administratives de cesser des exactions contre ses partisans. De sources policières, on affirme que les militants de l'UDPS interpellés depuis la semaine dernière sont en train d'être relâchés, sauf ceux qui ont commis des délits de droit commun. Le général Jean-Dédé Oléko, inspecteur provincial de la police, a précisé que d'autres seront libérés dans les heures qui viennent. Julien Nyamouni, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province voisine du Kasaï occidental, on signale la libération de 13 personnes sur les 19 qui ont été arrêtées le 30 juin dernier dans les territoires de Kamonia. 6 autres personnes sont encore dans le cachot de Kamonia. Selon l'administrateur du territoire, elles sont détenues pour avoir troublé l'ordre public en voulant organiser une marche le 30 juin. L'ONG des droits de l'homme, la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, déplore la détention de ces personnes. Des enfants de 10 à 15 ans employés dans une entreprise minière chinoise basée à Lubumbashi. Ces enfants travaillent pour chercher de quoi payer les études l'année scolaire prochaine. Seulement, ils travaillent dans des conditions sanitaires plutôt dangereuses. C'est le constat d'une délégation de la MONUC Lubumbashi qui a visité hier les installations de l'entreprise chinoise. Reportage d'Ona Chimboj.
Chaque matin, des centaines de jeunes Congolais envahissent la concession des Jiaxi Mining. Certains sont âgés de 10 à 15 ans. Ils travaillent les mains nues, sans protection contre la poussière et les produits toxiques. Leur travail consiste à nettoyer et emballer des minerais destinés à l'exportation. Ils reçoivent 25 francs pour un sac de 50 kilos. Un des enfants explique.
14 ans.
J'ai 14 ans. Nous nettoyons des produits et les acheminons de l'autre côté. Je reçois par sac 25 francs et par jour, nous chargeons 70 sacs.
70.
Pour les responsables de l'entreprise, ces enfants sont des élèves qu'ils aident à préparer la prochaine rentrée scolaire. Ce sont des jeunes gens que nous aidons pour leur service. Ce sont des vacanciers qui ont besoin de se procurer des cahiers. Ils ont des petits contrats. Ils descendent et lavent des produits et nous leur donnons des
cachenets.
Lors de notre visite dans les installations de Jiaxi Mining, nous n'avons vu aucun enfant avec un cache-nez. Notons que c'est depuis 2 ans que fonctionne l'entreprise Jiaxi Mining à Lubumbashi. Elle s'occupe de l'achat de l'hétérogénite auprès des creuseurs et négociants miniers dans la périphérie de Lubumbashi. Ces minerais sont ensuite exportés à l'état brut vers l'étranger. Les responsables de la MONUC chargés de la protection de l'enfant se disent très préoccupés par la situation de ces enfants. Ils la trouvent inacceptable puisque ces enfants sont exposés à de multiples maladies. Lubumbashi, Donatimbo, Radio Okapi.
Cap vers la province de Bandundu, le retard de la paie des 2 derniers mois de salaire des enseignants du secteur public a été au centre d'un entretien entre le président de la société civile de Bandundu, l'abbé Bernard Fantsaka, et le gouverneur de province Sabin Biboko. La société civile exige ce paiement, mais aussi le rétablissement de la rétrocession d'un certain pourcentage des recettes produites par la région. L'abbé Bernard Fantsaka a été joint par Nadine Foula.
Alors, l'objet de notre entretien, c'était réclamer les arriérés de salaire, suivant qu'il a été promis par le ministre de la fonction publique, de passage à Bandundu, il y a quelques semaines. Il avait promis que l'on payerait 2 mois de salaire à la fois, à savoir mai et juin. Et puis, celui de l'argent de la rétrocession que le gouvernement central envoie à la province, qu'en est-il? Parce qu'on en entend parler, mais on ne voit pas les effets.
Pour sa part, le gouverneur Sabin Sadiboko déclare que le retard constaté dans le paiement des salaires des fonctionnaires ne relève pas de la mauvaise foi. Il parle plutôt de manque de liquidité. On écoute le gouverneur Sabin Sadiboko.
Effectivement, la note de crédit est arrivée pour payer le mois de mai et de juin. Mais malheureusement, notre banque n'a pas de liquidité pour payer le mois de juin. Nous avons entrepris les démarches, aussitôt nous avons saisi Kinshasa pour que Kinshasa nous envoie des fonds pour qu'on arrive à payer le mois de juin. La note de crédit est là, mais il n'y a pas de liquidité. Par contre, ceux qui sont payés à la caisse, comme il y avait des liquidités, ils ont été payés tous. Il n'y a pas mauvaise foi quelque part. Les démarches sont en cours, nous attendons, j'espère bien, d'ici la fin de la semaine. Dès qu'on a les liquidités, on va les payer par rapport à la rétrocession que nous recevons. Nous leur avons donné des explications. D'abord, la rétrocession n'est pas régulière.
Au Burundi, l'ex-rébellion des Forces pour la Défense de la Démocratie, FDD, a remporté les élections législatives de lundi au Burundi avec 58,23% des voix, selon les résultats de la mission de l'ONU au Burundi, résultat obtenu mardi et qui porte sur la totalité des bulletins dépouillés. Fin hier mardi à Sirte en Libye du sommet de l'Union africaine, l'Union africaine demande aux G8, les 8 pays les plus industrialisés du monde, d'annuler totalement la dette de l'Afrique. Elle réclame 2 sièges permanents pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Les chefs d'État africains ont décidé également de réclamer au sommet du G8 qui s'ouvre aujourd'hui en Écosse la suppression des subventions agricoles à leur pays, à leurs paysans, ce qui handicape des secteurs entiers de l'économie africaine, notamment le secteur du coton. Voilà, il est 7h15 à Kinshasa, 8h15 à l'est du pays. Nous vous disons merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Okapi. Excellente journée à toutes et à tous. Okay.